J'ai une très bonne question pour vous. Quelle est la plus grande joie qu'un croyant peut avoir? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous aidera à dépasser ce qu'est le simple plaisir, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je suis bien reconnaissante envers Dieu pour la manière dont il nous fait mieux connaître notre bien-aimé Sauveur Jésus, à travers les enseignements qu'on reçoit ces jours-ci dans l'Épître aux Hébreux. Alors voici les questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que les sacrificateurs offraient continuellement les mêmes sacrifices? Qui peut nous conduire à Dieu? Qui peut nous rendre capables de l'adorer? Quelle est la plus grande joie qu'un croyant peut avoir? Qu'est-ce que l'Ancien Testament nous enseigne au sujet du tabernacle terrestre? Est-ce qu'il était permanent? Y a-t-il des accessoires qui sont utiles pour notre bien-être spirituel? Comment pouvons-nous obtenir une rédemption éternelle? Est-ce que la Bible utilise des animaux pour illustrer l'œuvre de Jésus-Christ? Restez là, nos réponses s'en viennent. Le Seigneur va nous les donner sous peu par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, remercions le Seigneur ensemble pour ce précieux enseignement qu'il nous donne quotidiennement. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous console, qui nous encourage. On a besoin de toi Seigneur, viens nous l'enseigner aujourd'hui. Parle par la bouche de ton serviteur. Nous t'écoutons. Amen. À toi Régent.
Merci Caro. À la dernière émission, nous avons discuté de la véritable adoration. Ce n'est pas observer un rituel religieux, mais venir en présence de Dieu en passant par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas adorer sans être conscients de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Le service chrétien résulte de la véritable adoration. Nous n'avons pas besoin de pousser dans le dos un adorateur authentique afin qu'il se rende utile à l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que le tabernacle terrestre était une figure du tabernacle céleste. Le tabernacle était divisé en deux parties, le lieu saint et le saint des saints. Une fois par année, le jour des expiations, le souverain sacrificateur pénétrait dans le saint des saints pour y faire brûler de l'encens et y apporter le sang de la victime qui avait été sacrifiée pour les péchés du peuple. Le prêtre aspergeait le propitiatoire de ce sang. Ce propitiatoire servait de couvercle à l'arche, et deux chérubins d'or étaient montés sur celui-ci. Dieu se manifestait entre ces deux chérubins. Le sacrifice expiatoire rendait Dieu propice au peuple, et il lui pardonnait ses péchés. C'est pour cette raison que le couvercle était appelé le propitiatoire. Tout ceci est une figure du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il s'est sacrifié afin que Dieu soit rendu propice envers tous ceux qui croiraient en lui. Le sang de Jésus-Christ purifie les croyants de tous leurs péchés. Nous vous avons demandé si vous goûtiez la douceur de la présence de Dieu à chaque jour. Débutez-vous vos journées en passant un peu de temps avec le Seigneur Jésus. Nous allons poursuivre sur le même sujet aujourd'hui. Le sacerdoce de Jésus-Christ est supérieur au sacerdoce lévitique. Pour bien reprendre le fil de notre pensée, nous allons d'abord relire les versets de l'émission précédente. Hébreux chapitre 9, verset 2. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Ceci est une description du tabernacle terrestre que Moïse a fait construire selon les instructions de Dieu. Ce tabernacle utilisé dans le désert est une figure ou une image du tabernacle céleste. Les versets 3 à 5. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. En fait, l'auteur ne veut pas s'arrêter longuement sur la description du tabernacle. Son but premier est de comparer le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ au sacerdoce lévitique. Il veut démontrer la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ. Verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Notez que les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Ils offrent continuellement les mêmes sacrifices, car ceux-ci ne sont pas suffisants pour purifier le peuple de ses péchés. Ils ne sont qu'une figure du sacrifice efficace, le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'Évangile selon Jean chapitre 1, verset 29. C'est ce sacrifice qui nous purifie du péché une fois pour toutes. Verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Ceci se faisait le jour des expiations. Il aspergeait le sang du sacrifice expiatoire sur le propitiatoire. Ensuite, il brûlait de l'encens, ce qui illustrait le fait que Dieu agréait le sacrifice. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Autrement dit, le chemin qui conduit dans la présence de Dieu n'était pas encore ouvert. Le premier tabernacle et ses rituels étaient une figure du tabernacle céleste et du véritable sacrifice qui ouvrirait le chemin au trône de la grâce. Versets 9 et 10. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Autrement dit, le sacrifice ne rendait pas parfait celui qui l'apportait au temple. Le tabernacle était une institution temporaire. L'accès au tabernacle était bloqué par les trois entrées des différentes parties du tabernacle. Un homme qui apportait un agneau en sacrifice pour ses péchés se présentait à l'entrée principale du tabernacle. L'homme posait sa main sur l'agneau, s'identifiant à la bête qui allait mourir pour ses péchés. Le prêtre prenait ensuite l'agneau, l'égorgeait et l'offrait sur l'autel d'airain. Celui qui avait apporté l'agneau ne pouvait pas entrer dans la cour où se trouvait l'autel. Ensuite, seul un prêtre pouvait pénétrer dans le lieu saint. Finalement, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le saint des saints une fois par année, le jour des expiations. Ce lieu où Dieu manifestait sa présence était interdit aux prêtres et au peuple. Le tabernacle était donc une institution temporaire, donnée pendant une période de temps en attendant le sacrifice efficace, celui de Jésus-Christ. Qui peut nous conduire à Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ peut nous conduire à Dieu, et lui seul peut le faire. Le Seigneur Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » L'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 6. La véritable adoration passe par Jésus-Christ, et notre service chrétien résulte de cette adoration. Lorsque nous entrons en présence de Dieu, nous désirons le servir et lui plaire. Toutes nos excuses pour ne pas se rendre utile à son œuvre tombent. L'adoration est une source de joie. Les théologiens libéraux condamnent l'adoration. Il y a quelques décennies, Henry Emerson Fosdick a dit que le monde a essayé de se débarrasser de Jésus-Christ de deux façons. En le crucifiant et en l'adorant lors de services religieux, mes amis, c'est un blasphème que de dire que si quelqu'un adore le Seigneur Jésus ou lui rend hommage, il n'est pas meilleur que ceux qui l'ont crucifié. Nous nous approchons du Dieu saint en passant par un Sauveur qui a été crucifié. Lui seul nous rend capables d'adorer véritablement. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19. Aussitôt que Paul a dit aux croyants d'être remplis de l'Esprit, ce qui équivaut à être en présence de Dieu, il leur dit de s'entretenir en rendant un culte à Dieu. C'est cela, la véritable adoration. La plus grande joie que peut avoir un croyant, c'est de goûter à la plénitude de l'Esprit et que ce même Esprit lui enseigne et lui révèle la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Cela produit une grande joie dans son cœur. Si vous allez en la présence de Dieu pour adorer, vous expérimenterez une joie, et votre cœur sera porté à chanter ses louanges. Certaines personnes ont de la difficulté à chanter, juste et bien, mais l'important, c'est de chanter dans votre cœur. C'est merveilleux de rendre un culte à Dieu. Nous allons maintenant résumer ce que nous avons dit au sujet du tabernacle terrestre, celui qui est inférieur au tabernacle céleste. Dans ces textes, J. Vernon McGee s'est servi d'un schéma de Ryan Warsby. J'utilise ce même schéma. 5 faits au sujet du tabernacle terrestre. Premièrement, le tabernacle se trouvait sur la terre. C'était un tabernacle fabriqué avec des matériaux usuels de son époque. Il a été érigé sur la terre. Deuxièmement, le tabernacle était l'ombre des choses à venir. Ce tabernacle n'a jamais été le véritable tabernacle. Parfois, nous étudions au sujet de ce tabernacle terrestre, et il est la cible de toute notre attention. Cependant, il ne faut jamais oublier qu'il n'est jamais plus qu'une figure du véritable tabernacle céleste. Troisièmement, le tabernacle était inaccessible au peuple. Personne ne pouvait entrer dans ce tabernacle. Un Israélite ne pouvait pas aller directement à la présence de Dieu. Les gardes ne lui auraient pas permis d'entrer même dans la zone de l'autel d'airain. L'Israélite devait se présenter avec un sacrifice, mais un prêtre faisait le service pour lui. Par contre, aujourd'hui, les croyants sont un saint sacerdoce ou un sacerdoce royal. Tous les croyants ont un accès au trône de la grâce. Ils ont ce grand privilège, car le Seigneur Jésus a déchiré le voile qui séparait le lieu saint du saint des saints. Le Seigneur Jésus est allé en présence de Dieu et il a vu sa face. Il y est encore, mes amis, et il représente les croyants. Sous le régime de l'ancienne alliance, les Israélites n'avaient pas ce privilège. Quatrièmement, le tabernacle était temporaire. Par contre, le Seigneur Jésus garde le chemin au trône de la grâce ouvert pour l'éternité. Le tabernacle terrestre était une institution temporaire en attendant la nouvelle alliance. Cinquièmement, le tabernacle était incapable de changer le cœur des Israélites. C'est ce point que je tiens à souligner. Le sanctuaire terrestre n'était pas là pour changer les cœurs et il ne le faisait pas. Cependant, aujourd'hui, si nous venons à Jésus-Christ, il transforme nos vies. Lui seul vous rend capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Lui seul peut nous rendre conscients de la présence de Dieu. De nombreuses personnes ne font que jouer à aller à l'église. Je connais des chrétiens qui sont devenus des aînés. Ils ont des cheveux blancs et ils jouent encore à aller à l'église. Ils siègent sur des comités, ils chantent dans la chorale, ils enseignent à l'école du dimanche. Ils sont aussi occupés que des fourmis, mais très inefficaces. Ils pensent servir Dieu, mais ils n'ont pas de relation personnelle, intime, avec lui. Sans avoir adoré Dieu en sa présence, nous ne pouvons pas le servir. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Des biens à venir. Ces biens à venir sont maintenant des biens du passé. Nous les avons obtenus en Christ Jésus. il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Le tabernacle que le Seigneur Jésus a traversé n'est pas d'origine humaine, et aucun être humain n'a participé à sa construction. Le tabernacle, plus grand et plus parfait, n'appartient pas à la création naturelle, et il n'est pas fabriqué avec des matériaux naturels. Les accessoires sont inutiles pour notre bien-être spirituel. Permettez-moi de souligner un point. Je désire le faire avec douceur. Agrémenter le culte du dimanche avec des icônes, des images saintes, des vitraux, des chandeliers, des croix, ne fait que plaire à la chair. Cela fait appel au côté charnel de l'être humain. Cela ne contribue en rien à son bien-être spirituel. Nous devons nous rendre compte que le véritable tabernacle est au ciel et que c'est là que se trouve notre véritable grand prêtre, l'unique grand prêtre. La véritable adoration se fait en présence de Dieu. Elle se fait donc dans le tabernacle céleste. Nous pouvons adorer Dieu où que nous soyons, mais il est tout de même merveilleux lorsque les croyants se rassemblent dans un bâtiment d'église et qui adorent véritablement. Verset 12 d'Hébreux chapitre 9. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Plusieurs théologiens et plusieurs érudits, dont J. Vernon McGee, croient que ce verset enseigne que Jésus-Christ a littéralement porté son sang avec lui au ciel. Puisque le sang des boucs et des veaux doit être pris au sens propre du mot, l'expression « son propre sang » doit aussi être prise littéralement. Cependant, cette opinion n'est pas partagée par tous. Voici une citation du nouveau dictionnaire biblique, l'édition du logiciel La Bible Online. « Avec son propre sang », verset 12, le grec dit exactement « au travers de son propre sang », ce qui veut dire « sur le fondement de sa mort expiatoire déjà accomplie ». Nous devons retenir un point crucial. Si le Seigneur Jésus-Christ ne s'était pas offert en sacrifice et s'il n'avait pas versé son sang sur la croix, nous n'aurions pas accès au trône de la grâce, au tabernacle céleste, à la présence de Dieu. Le reste est secondaire, vous êtes libre de faire votre propre opinion. Le sang de Christ nous procure une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle, précise le texte. Le mot-clé de cette expression est « éternel ». Le Seigneur Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et il a obtenu une rédemption éternelle. Les prêtres lévitiques devaient offrir des sacrifices quotidiennement. Un sacrifice était offert annuellement pour les péchés du peuple le jour des expiations. Cependant, le peuple n'obtenait pas une rédemption éternelle. C'est le sacrifice de Jésus-Christ et son sang versé sur la croix qui a obtenu une rédemption éternelle. Ceci démontre l'importance du sacrifice de Jésus-Christ, car c'est ce sacrifice que Dieu a agréé. Ceci nous rappelle aussi que la vie du Seigneur Jésus n'a jamais sauvé personne. Nous pouvons essayer de vivre conformément à l'enseignement de Jésus-Christ et croire que nous serons sauvés. Cependant, ce n'est pas l'enseignement du Seigneur Jésus qui nous sauve, mais son sacrifice sur la croix, sa mort expiatoire. Le prix du rachat de notre âme est le sang précieux du Fils de Dieu. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Et la cendre d'une vache, cette expression réfère aux ordonnances au sujet d'une vache rousse que l'on trouve dans le livre des Nombres, chapitre 19. La vache était brûlée entièrement et ses cendres étaient conservées dans un lieu pur. Elles servaient à préparer l'eau de purification. Une personne qui se rendait impure en touchant un mort utilisait cette eau de purification pour redevenir pure. Le Seigneur Jésus a été fait péché pour nous. Le livre des Nombres nous dit qu'une vache rousse devait être sacrifiée pour faire l'eau de purification. Cette vache rousse symbolisait plusieurs aspects de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. La couleur rousse tire sur le rouge, et cela symbolise le fait que le Seigneur Jésus a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il n'a pas été fait péché pour nous seulement de façon théorique, mais Dieu l'a vraiment fait devenir péché pour nous. Bien que Jésus-Christ n'ait pas personnellement péché, nos péchés lui ont été imputés. Ils ont été portés sur son compte. Qu'est-ce qui nous dit que le rouge est la couleur du péché? Le prophète Isaïe a dit, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Isaïe chapitre 1, verset 18. Le fait qu'une vache rousse ait été utilisée souligne le fait que le Seigneur Jésus a été fait péché pour nous. La vache rousse illustre l'œuvre de Jésus-Christ. L'animal devait être sans défaut. Seul un animal parfait pouvait représenter le Seigneur Jésus-Christ, qui était sans péché. Il était saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs. La vache rousse ne devait jamais avoir porté un joug. Ceci illustrait que bien que le Seigneur Jésus ait été fait péché pour nous, il n'a jamais été l'esclave du péché comme le sont les êtres humains. La vache devait être conduite hors du camp et tuée en présence du souverain sacrificateur. Ceci illustre le fait que le Seigneur Jésus-Christ était à la fois le souverain sacrificateur et le sacrifice. Il s'est offert lui-même pour nos péchés. Le sang de la vache sacrifiée devait être aspergé 7 fois devant le tabernacle. Cette tâche incombait au souverain sacrificateur. De nombreuses personnes pensent que 7 est le nombre de la perfection dans l'Écriture. Ceci est vrai, mais indirectement. Le nombre 7 symbolise principalement la complétude, c'est-à-dire le caractère de ce qui est complet ou achevé. Ceci illustre le fait que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ a complété ou achevé son œuvre rédemptrice. Il a offert le sacrifice nécessaire pour le pardon et la purification de nos péchés une fois pour toutes. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre du Seigneur Jésus. La transaction pour le rachat de notre âme est faite. Le sang de Jésus-Christ a servi d'encre pour inscrire « payé » sur la facture. La carcasse de la vache sacrifiée devait être brûlée, réduite en cendres, et ce, en présence du souverain sacrificateur. En fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. De plus, le Seigneur Jésus a volontairement accepté de venir mourir sur la croix pour nous sauver. Je ne crois pas que nous puissions concevoir la tristesse qu'il y a eu au ciel le jour de la crucifixion du Seigneur Jésus. Lors du sacrifice de la vache, le souverain sacrificateur devait suivre ses instructions. Le sacrificateur prendra du bois, de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Nombre chapitre 19, verset 6. Ceci illustre le fait que le Seigneur Jésus n'a pas seulement racheté l'humanité, mais la création entière. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains chapitre 8, versets 20 à 22. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître aux Hébreux chapitre 9, versets 13 à 28.
Merci, Régent. Tu as encore parlé d'adoration aujourd'hui, et je dois dire que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. L'adoration. Tu as mentionné que la plus grande joie que peut avoir un croyant, c'est de goûter à la plénitude de l'Esprit et que ce même Esprit lui enseigne et lui révèle la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as ajouté que cela produit une grande joie dans le cœur du croyant. Mes amis, je suis bien d'accord avec Régent que si on va dans la présence de Dieu pour l'adorer, on expérimente une grande joie. Et le résultat de cette joie, c'est qu'on est alors porté à chanter ses louanges. Je vous ai peut-être déjà mentionné ceci, mais j'aimerais quand même partager deux moments avec vous. L'un d'entre eux, c'est un début de soirée où j'avais un énorme chagrin dans mon cœur. Alors je me suis mise à répandre ma plainte devant Dieu, à lui exprimer que mon cœur était brisé et à lui demander de venir consoler mon cœur, puisque lui seul était capable de produire un tel miracle à un moment où mon âme refusait toute consolation. Et soudain, mes lamentations se sont transformées en chants d'allégresse, de joie authentique. Je suis alors allée bien vite dans mon coin préféré de la maison, l'endroit où je fais mon culte personnel, où je prie, où je chante, où je lis et médite la parole de Dieu. J'ai pris ma guitare et je me suis mise à louer Dieu par des chants et à le remercier de sa divine présence qui m'apportait une joie inexprimable, une joie débordante. Il n'y a rien de meilleur à goûter que la présence de Dieu. Et quand on a du chagrin, il nous console. Quand on se donne la peine d'entrer dans sa présence, de le supplier de nous pardonner, de nous consoler, de nous fortifier, de nous encourager, et il le fait. Le deuxième moment que j'aimerais partager avec vous, eh bien, c'est un lundi après-midi alors que j'étais tout simplement en train de faire du ménage. Ma télé était allumée et on jouait de la musique latine assez entraînante. Et par-dessus les accords que j'entendais, je me suis mise à chanter un air différent avec des paroles qui exprimaient ceci à mon Dieu merveilleux. Laissez-moi vous lire les paroles que j'ai composées. « Je veux te louer constamment de tout mon cœur. Je veux te louer constamment de toute mon âme. Je veux te louer constamment de toute ma pensée. Et de toute ma force, je veux t'adorer. Je veux te louer constamment, ô Seigneur Jésus. Je veux t'aimer sans m'arrêter. » Car tu m'as aimé le premier. Je veux sans cesse te dire merci pour ton salut. Oui, je veux te louer, t'aimer et t'adorer. Tu m'as créé pour ton plaisir. Fais-moi connaître ce que tu désires. Ce que je veux, c'est de choisir ce qui te plaît, ce qui te fait sourire. Et j'ai besoin d'apprendre de toi, ô mon Seigneur, ce que tu attends de moi. Mon Dieu, enseigne-moi. Ô Seigneur, je veux te remercier pour ce chant que tu m'as inspiré. Je veux te remercier pour la louange que tu mets dans le cœur de tes enfants quand notre cœur est triste, que tu changes nos pleurs en chants d'allégresse. Aide-nous à expérimenter ceci chaque jour, en ouvrant ta parole, en apprenant à mieux te connaître et en répandant cette parole, en annonçant la bonne nouvelle de ton salut à toutes les personnes qui sont perdues autour de nous. Sers-toi de nous, Seigneur, tes enfants, pour dire aux gens que tu les as tant aimés, que tu as donné ton Fils unique afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.